9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Nous allons parler ce matin du placement d'un enfant en famille d'accueil ou dans une structure adaptée. Maître Serran, donc ce placement peut être volontaire ou judiciaire. C'est ce qu'on appelle les enfants placés. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de ces enfants placés ?
Alors quand on parle d'enfants placés, vous avez bien fait le distinguo. Donc il y a un placement volontaire, c'est à la demande des parents, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que l'institution, à ce que l'État prenne en charge votre gamin. Voilà pour faire
ça. Ce sont les parents qui vont demander.
Alors, eux-mêmes. Absolument. Il y a ce premier placement qui est un placement volontaire, c'est-à-dire que les parents vont considérer à un moment de leur vie qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir s'occuper correctement, sérieusement de leur enfant. Alors, ça peut être parce que vous avez des parents qui vont se retrouver hospitalisés et donc ont des gros problèmes de santé. Ça peut être aussi parce que vous avez des parents qui, en raison de problèmes plus perso, qui se retrouvent au chômage et qui sentent, entre guillemets, que le sol se dérobe et qui ont quand même cette petite lumière ou cette petite conscience de se dire « je ne pourrai plus m'occuper du ou de mes enfants ». Alors, c'est une procédure qui existe, qui est évidemment beaucoup moins fréquente que la procédure où c'est l'État qui va mettre son nez dans votre vie privée. Mais c'est une procédure, encore une fois, qui est pas si courante que ça, puisque vous avez bien compris, c'est quand même difficile, même si vous êtes dans des difficultés majeures, de se dire, j'estime à un instant T que je n'ai plus ou je n'aurai plus la capacité de m'occuper du ou de mes enfants.
Alors, est-ce que le droit encadre les cas où c'est possible ?
Alors, le droit encadre le cas où c'est possible, c'est-à-dire que si ça devait évidemment arriver, vous avez la possibilité de saisir donc cette fameuse institution donc qui est l'ASE. Hein,
et alors, l'aide sociale à l'enfance.
L'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE.
Anciennement la DAS, non ?
C'est pas la même chose. Ouais. Et ce service d'ASE, alors dans chaque département, hein, il y a un service, on va dire attitré, donc vous pouvez vous rapprocher d'eux, donc pour leur expliquer la situation. Donc il y a des mesures qui vont être prises. Ce sont des mesures qui sont, par définition, on va dire, prises avec concertation avec les parents et avec l'accord des parents. Et cette mesure qui consiste en un placement, alors soit au sein d'une institution, soit au sein d'une famille d'accueil, soit même au sein éventuellement d'un membre de la famille qui accepterait cette mission. C'est un placement qui dure une année. Et au bout de cette année, donc on va refaire le bilan avec la famille pour voir si la famille a sorti la tête de l'eau. Et puis, alors si c'est le cas, c'est tant mieux et on vous restitue entre guillemets l'enfant. Alors j'aime pas tellement ce terme-là, mais c'est quand même un terme qui est approprié puisque on a déjà vu quand même des familles qui spontanément contactaient ces services-là pour dire je me sens pas en capacité de. Je demande à l'État, entre guillemets, de prendre la relève pendant une petite période et des familles qui courent ensuite après l'institution pour récupérer leur enfant. Donc il y a une sorte de contrat qui n'est pas toujours respecté du côté de l'État. Donc ça, c'est...
Alors moi j'ai une question. Que devient l'autorité parentale pendant que l'enfant est placé, pendant cette année-là ?
Alors, l'autorité parentale, elle est maintenue. C'est-à-dire qu'on va considérer que les parents ne sont pas... on va pas leur retirer leur rôle de parent. Donc, elle est maintenue. Après, il y a quand même parfois des exceptions ou des réserves. C'est-à-dire que quand on considère, encore une fois, que le ou les parents, pour certaines décisions, ne sont pas ou ne seraient pas en capacité de prendre telle ou telle mesure... on va, entre guillemets, passer outre cette autorité parentale.
Alors, vous avez parlé d'une durée de placement de 1 an, Maître Serran. Est-ce que les parents, par exemple, si au bout de 6 mois, 7 mois, se rendent compte qu'ils vont mieux, est-ce qu'ils peuvent interrompre et réduire la durée ?
Alors, à tout moment, les parents ont la possibilité, ou même les services de l'ASE, s'ils se rendent compte que la mesure ne présente pas d'intérêt au-delà d'un certain délai, donc au-delà, comme vous dites, de 6 mois, de 4 mois, de 3 mois. Donc à tout moment, on peut, entre guillemets, rediscuter et renégocier cet aspect-là. Maintenant, alors en théorie, oui, c'est tout à fait possible. En pratique, c'est vraiment autre chose. Alors, il s'agit pas de dire que les services de l'ASE mettent la main sur l'enfant et ensuite font ce qu'ils veulent, mais malheureusement, parfois, ça y ressemble un peu. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément l'écoute souhaitée par les parents à ce moment-là. Donc, c'est une mesure qui est une mesure de bon sens quand les parents ont cette conscience-là, mais c'est une mesure qui, parfois, vous complique la vie. Vous devez ensuite batailler contre l'institution pour récupérer votre enfant. Alors, je le redis, que c'est, dans un premier temps, un choix de la part des parents.
Donc, deuxième cas.
Voilà, première option, donc choix de la part des parents. Deuxième cas, c'est un choix de la part de l'institution. Alors l'institution, elle est mise en alerte par qui ? Alors elle peut être mise en alerte par vos voisins, s'ils se rendent compte que vous comportez mal avec vos parents, par l'école, si
avec vos enfants.
Avec vos enfants, par l'école, si on se rend compte également que les parents se comportent pas comme ils devraient se comporter. Donc c'est une mesure qui est une mesure coercitive, c'est-à-dire qu'on va venir vous enlever, entre guillemets, vos enfants. Alors, le terme est fort, mais c'est souvent ressenti comme ça hein, par les familles, parce que très souvent, les familles ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand l'institution judiciaire intervient dans leur vie privée et on vous écarte de votre rôle de parent, donc il y a un combat entre cette institution judiciaire et la famille. Et dans ce cas, c'est le procureur de la République donc qui va être amené à saisir le juge qui va s'occuper des enfants, donc le juge des enfants. Juge des enfants qui peut être saisi aussi, encore une fois, par l'institution qui est l'ASE. Juge des enfants qui peut aussi être saisi par l'enfant lui-même. Alors, en théorie, ça existe. Maintenant, en pratique, j'ai pas beaucoup, et je crois d'ailleurs n'avoir jamais croisé un dossier où c'est un gamin qui prend cette initiative pour dire « je suis en danger, institution judiciaire, merci de m'aider ».
D'accord, mais il y a aussi des enfants qui appellent ce numéro qui c'est le 119.
Oui, mais alors,
Allô Enfance en danger. Donc un enfant qui appelle pour expliquer ce qu'il vit chez lui…
Ouais, enfin on est d'accord, encore une fois, on reste quand même beaucoup dans la théorie. Je sais pas statistiquement quels sont les dossiers qui sont suivis soit à la demande entre guillemets d'une institution ou du juge qui peut s'auto-saisir et les dossiers qui ont été déclenchés parce qu'un gamin a appelé comme vous dites tel ou tel numéro. Donc vraiment je sais pas.
Un gamin qui appelle le 119, il y aura une information préoccupante qui sera transmise au département.
Le danger c'est quoi ? Le danger c'est que avec ces fameux numéros on a eu des excès, c'est-à-dire que pour un oui, pour un non, vous avez parfois des gamins qui vont faire tel ou tel numéro et parfois qui sont incités à le faire aussi par l'école, par les surveillants, par la conseillère d'éducation. Donc moi, je me méfie toujours de cet aspect-là. En tout cas, j'aimerais bien comprendre la sélection qui est faite pour considérer si une affaire est entre guillemets sérieuse ou pas.
Après, elle est transmise au département. Et après, il y a une enquête.
Il y a une enquête, mais c'est vrai qu'à partir du moment où le gamin qui appelle le numéro vert, la probabilité pour que l'enquête dise non, il s'est rien passé. Enfin, sincèrement, encore une fois, statistiquement, j'ai pas les chiffres, mais en règle générale, ce genre d'alerte, c'est très compliqué pour la famille de dire c'est mon gamin qui a fait n'importe quoi ou il a fait ça que pour nous emmerder. En règle générale, on va essayer de trouver quand même des fautes ou parfois initialement. Il n'y en avait pas. Donc c'est ça la bataille avec ce genre de service et d'institution. Alors je ne dis pas que cette institution et ce service ne présentent pas d'intérêt et c'est tant mieux que ça puisse exister. Par contre, on a quand même beaucoup, beaucoup de travers et parfois même des exagérations. Il faut savoir que c'est très facile hein, de faire une déclaration et de venir chez vous et de vous retirer un enfant. Et il faut savoir d'abord que le placement, contrairement à la première option qu'on a évoquée tout à l'heure, est de 2 ans éventuellement renouvelable. Donc c'est très facile de prendre un enfant. Je peux vous assurer que c'est une bataille pas possible que de revenir devant un juge pour enfants et d'essayer de démontrer que le ou les rapports qui ont été pondus par l'institution ne disent pas forcément la vérité, ne reflètent pas forcément la réalité d'une situation. Donc c'est vrai que les parents, oh bah carrément.
Ah bah là
c'est n'importe quoi.
Vous évoquez un sujet, Maître Serran, qui passionne les foules, hein.
Mais là quand même.
Mais c'est vrai qu'on peut quand même. Il faut dire que la protection de l'enfance est là pour protéger les enfants.
Non, heureusement. Non, encore une fois, heureusement que la protection de l'enfance, j'allais dire, existe, et évidemment, et malheureusement, et d'ailleurs, ces violences à l'égard des enfants, et pour faire un parallèle même à l'égard des femmes, durant cette période de confinement, ça a explosé. C'est-à-dire que ça, on l'a vu, et heureusement que l'institution existe. Mais je dois reconnaître, sincèrement et en toute objectivité que lorsque l'institution considère qu'un instant T, il y a peut-être une nécessité d'intervenir, cette institution va considérer que cette nécessité perdure. C'est-à-dire que il est rare que l'institution se dise on s'est entretenu avec les parents, il y a peut-être eu un travail de fond qui a été fait avec des psychologues, enfin peu importe, et puis on considère que les parents peuvent retrouver leur capacité à s'occuper des enfants. C'est là où l'institution a du mal à faire marche arrière. Et c'est ce qu'on lui reproche le plus souvent. Donc il faut savoir que si vous adressez à un juge pour enfants et qui prend ce type de décision de placement, vous avez un délai, alors qui est très court, hein, c'est un délai de 15 jours hein, pour contester pour éventuellement faire, ouais. Ouais, cette décision.
Pour la décision, une fois que le placement est prononcé.
Voilà, c'est-à-dire d'accord. que le juge, vous exposez votre situation, il n'est pas convaincu par l'argumentation des parents, il considère que le placement doit avoir lieu, alors parfois c'est justifié, parfois ça l'est moins. Vous avez 15 jours pour le contester, vous allez vous retrouver devant la cour d'appel, sauf que sincèrement, entre le moment où vous faites appel et le moment où vous avez une audience devant cette fameuse cour, même si on considère qu'on est dans des dossiers où les délais doivent être longs, enfin voilà, quand ça va vite, des fois ça dure 6 mois, des fois ça dure 1 an. Donc c'est rare que la cour d'appel revienne sur cette décision elle-même.
Ce que vous nous dites, c'est qu'après, c'est compliqué de faire annuler une décision.
C'est au-delà de ça, et c'est ça qui est terrible, puisque mais même quand vous le demandez volontairement, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça. L'institution joue pas toujours le jeu.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, Maître Serran. Je rappelle que si vous avez des questions juridiques à poser ce matin, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran est avec nous. Maître Serran répond à toutes vos questions au 01 53 48 3000. Non, parce que vous ne m'en avez volé qu'un aujourd'hui.
C'est vrai, je vous ai volé qu'un livre.
Qu'un livre. Donc ouais, c'est pas vrai. 3 livres, c'est 3000. Et Mustapha est à Toulouse. Et on va à Toulouse, Maître Serran, grâce au miracle de la technologie. Mustapha, bienvenue.
Alors oui, bonjour.
Bonjour Mustapha.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Mustapha.
Voilà, je vous appelle, en fait, j'ai juste une petite question à vous poser, là, c'est juste un petit renseignement. Voilà, je vous explique. Moi, je suis séparé depuis 3 ans maintenant, donc ma question concerne, en fait, les droits de visite. Sur les pensions alimentaires, je suis à jour. Sur le droit de visite, un week-end sur deux, je suis à jour. En fait, je déconne un peu sur les vacances scolaires. Parce que pourquoi? Vu que je suis intérimaire, le problème, c'est que je travaille tout le temps. Voilà. Ma question, c'est qu'est-ce que je risque quelque chose ou pas ouais,
alors, ça dépend beaucoup de la relation que vous pouvez avoir avec madame. Mais si vous nous appelez pour poser cette question, c'est qu'avec avec la mère de l'enfant, c'est un peu compliqué quand vous discutez de ça ou pas?
Exactement, ouais. C'est un peu compliqué parce que pourquoi? Parce que, voilà, elle me menace, elle me dit tu les prends jamais, etc.
D'accord.
Mais moi, le problème, c'est que j'ai ma raison. Pourquoi? Parce que je suis intérimaire. Je pourrais prendre mes enfants pour une semaine, quand c'est ma semaine. Mais le problème, c'est que si j'arrête, je perds de l'argent et ma mission.
Évidemment. Alors d'abord, il faut savoir que, bon, mais ça semble une évidence. Il vaut mieux privilégier le dialogue avec le parent, puisque même quand une décision est rendue et quand il y a quand même une certaine entente entre les parents, on peut s'arranger comme on le souhaite. Si on n'est pas obligé de respecter le jugement à la lettre tant que papa et maman sont d'accord. Maintenant, dans votre situation, je peux comprendre. On va pas vous demander d'arrêter de travailler pour pouvoir prendre votre enfant. Il y aurait des conséquences financières, mais vous savez, vous avez aussi la possibilité, éventuellement, monsieur, et selon moi, il faudrait peut-être le faire, de ressaisir le magistrat, donc le juge aux affaires familiales, pour mettre en avant cette situation. Il y a aucun juge qui va vous sanctionner au motif que il y a le boulot qui pourrait vous passer sous le nez parce que monsieur garde son enfant. Donc les juges le comprennent, ça. Ce qu'il faut, c'est les informer de cette situation. Et si vous informez le juge en disant je dis n'importe quoi, mais 2-3 jours avant, je peux pas savoir si je vais pouvoir récupérer mon enfant ou pas, sous réserve de justifier de cette situation avec des considérations professionnelles, le magistrat vous autorisera, entre guillemets, à appeler la mère, encore une fois, 24 ou 48 heures avant, juste pour lui dire bah, je peux exercer ou je ne peux pas exercer. Et si vous ne pouvez pas, vous serez pas sanctionné. Là, le fait, voilà, de pour des bonnes raisons, le fait de ne pas exercer votre droit. Et je le redis, même si les raisons sont bonnes, eh ben si madame se plaint, un juge pourrait dire « Monsieur, je crois que vous vous foutez royalement de la situation ». Mais si vous voulez pas être sanctionné, il vaudrait mieux que cette initiative vienne de vous. C'est à vous de revenir devant le juge. Et le juge, vous n'êtes pas obligé de le saisir avec un avocat. Vous pouvez lui envoyer une simple lettre recommandée avec accusé de réception, donc une requête, simplement pour lui dire « Voilà, vous avez rendu ça comme décision ». Compte tenu de ma situation actuelle, alors je peux pas, j'aimerais un aménagement. Mais il faut prendre l'initiative. N'attendez pas que madame soit excédée, parce que peut-être qu'elle va pas comprendre, ou peut-être qu'elle va pas vous croire, et elle pourrait, elle, ressaisir le juge pour que vous soyez sanctionné.
Le problème, c'est que madame, ma situation, elle la connaît très bien, quoi. Donc, moi, mon statut, il a pas changé. Même quand je vivais avec elle avant la séparation, j'étais toujours intérimaire.
Ouais, alors ce que vous dites est intéressant, monsieur, parce que cette histoire, elle existait avant même que la décision soit rendue par le juge.
Exactement.
Ouais, voilà, mais voyez, quand c'est comme ça, alors ça c'est différent, c'est-à-dire que quand vous connaissez votre situation avant d'aller voir le juge, normalement, ces éléments-là, on les évoque déjà devant le magistrat. Moi, je parle plus de situations où un jugement est rendu et ensuite il y a des éléments nouveaux qui viendraient bouleverser le planning du père ou de la mère. Mais là, si vous connaissiez votre situation, vous auriez pu déjà à l'époque l'évoquer auprès du juge. Il aurait pris peut-être des mesures différentes.
Ben justement, le jour où je suis passé chez le juge là, pour à l'audience, etc., au tribunal, et tout le monde était au courant. Mon avocate, la juge, j'étais toujours intérimaire. Donc il le savait, tout le monde le savait en fait.
Et on vous a pas dit. Bah parce qu'en règle générale, quand c'est comme ça, donc les magistrats, encore une fois, hein, le juge, il est pas là pour sanctionner le père ou la mère. Hein, donc le juge, il veut que la mesure soit dans l'intérêt du ou des enfants. Mais quand c'est comme ça, et quand on n'est pas sûr de son planning, il y a cette disposition, c'est-à-dire que le magistrat, dans le jugement, il vous dit à charge pour monsieur d'appeler, encore une fois, madame 24 ou 48 heures avant, juste pour lui dire, je peux venir chercher l'enfant ou je ne peux pas pour des raisons professionnelles. Ce qu'il faut, mais ça c'est, je peux le comprendre, vous savez, un enfant, quand vous lui dites, il y a ton père qui va venir demain et que le père ne vient pas, ça peut, voilà, ça peut quand même perturber le gamin. Donc ça, je l'entends et je le comprends. Mais vous auriez déjà pu à l'époque, enfin vous ou votre conseil, évoquer cet aspect-là. Il y a toujours la possibilité, encore une fois, pour le juge de vous dire, monsieur, il n'y a pas de problème, vous préviendrez madame en temps et en heure.
Oui, mais le problème, oui, je ne peux pas prévenir, parce que vous savez, quand vous êtes intérimaire, vous savez pas si vraiment...
Bien sûr, c'est le propre, j'entends bien, encore une fois, hein, c'est le propre de l'intérim. Maintenant, c'est-à-dire que on peut pas aller au-delà, c'est-à-dire le juge va pas vous dire, monsieur, si vendredi vous travaillez, appelez madame vendredi pour lui dire, je vais pas venir chercher l'enfant. Je le redis d'abord... parce que madame doit s'organiser aussi, vous voyez, c'est-à-dire que un enfant, si on lui dit bah ton père vient tout à l'heure et puis le père il appelle une heure avant pour dire je peux pas venir, c'est un peu dur quand même pour le gamin. Donc j'entends bien votre situation et ce genre de situation ne peut se régler que quand il y a vraiment, j'allais dire une véritable entente entre
la paire, il n'y en a pas deux.
C'est pas mal. Mais on va être rémunéré pour ça par.
Oui, voilà, vous allez avoir une nouvelle véranda, une nouvelle cuisine.
La paire, il n'y en a pas deux. J'en dis une deuxième fois. Donc, le truc, c'est ça, évidemment, quand il y a un accord entre papa et maman, il n'y a pas de difficulté. Là, monsieur, je vous disais, rapprochez-vous du juge. Mais même pas, puisque vous me dites que quasiment la veille, vous savez pas si vous allez avoir une mission d'intérim ou pas.
C'est compliqué, c'est très compliqué quand on
j'entends
a
bien.
Un intérimaire, donc on peut pas savoir, on peut pas prévoir, c'est ça.
J'entends bien, et un juge vous demandera pas de choisir entre votre boulot, puisque vous en avez besoin justement pour éventuellement payer la pension alimentaire, vous occuper aussi de votre enfant.
Exactement.
Mais voilà, alors il faut faire preuve de la plus grande diplomatie envers la mère de l'enfant, ouais, parce que je peux comprendre hein, qu'une mère soit excédée hein, si vous l'appelez à 8h du matin pour lui dire à 10h je viens pas. Ouais, oui, c'est pas bon, ni pour la mère ni pour le gamin évidemment.
Non, mais je la comprends très bien. Je le sais que c'est pas évident pour elle aussi. Mais bon, bah, après, bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis intérimaire, donc je peux pas faire mieux. Il est là, le problème, en fait.
J'entends bien. Ah, mais c'est pour ça, je vous dis, s'il y a pas de d'accord, tacite, ouais, avec la mère, ou alors faut faire l'effort en se disant, bon, encore une fois, hein, vous êtes pas en faute, puisque c'est pour le boulot. Mais je crois qu'il faut prendre un peu sur vous et puis faire en sorte, de temps en temps, c'est malheureux, hein, mais avec les femmes, si tu fais pas le canard, voilà, exactement. Ouais. Donc des fois, ouais, c'est triste, hein.
Après, je vais rajouter. Moi, j'aurais eu mon.
Maître Serran, ses propos n'engagent que vous.
Absolument.
Je le répète, hein. Absolument. Maître Serran, ses propos n'engagent que vous.
Bien sûr.
Hein.
Bien sûr.
Moi, si vous voulez, j'aurais eu de la famille ici, sur Toulouse.
Ouais, évidemment.
Pas de problème. Je mettrais mes enfants chez ma mère ou chez mon père ou chez ma frangine. Mais c'est pas le cas. Ici, sur Toulouse, je suis seul. Donc voilà, j'ai pas cette possibilité là en fait. Voilà, tout simplement.
Non, enfin, pour répondre clairement, c'est-à-dire que même si encore une fois, là vous justifiez le fait de pas pouvoir venir chercher votre enfant en temps et en heure, c'est pas parce que vous voulez pas, c'est le boulot. Ouais. Donc même si madame demain était amenée à se plaindre devant un magistrat, il y a pas un juge qui va vous sanctionner pour ça. Puisque d'accord. J'allais dire vous pouvez pas faire autrement.
D'accord.
Vous voyez,
d'accord,
donc on va pas vous retirer votre droit.
D'accord. Juste une dernière question et je vous laisse tranquille.
Alors, Mustapha, vous pensez qu'il y a des gens derrière qui veulent poser des questions à Maître Serran, mais regardez, vous pouvez appeler Maître Serran. Ce que vous pouvez faire, c'est que Mustapha, vous pouvez appeler Maître Serran après l'émission. Maître Serran, donnez-vous votre numéro de téléphone.
Appelez-moi tout à l'heure au 06 62 58.
Je l'ai.
59 64.
Vous l'avez?
Bon, ben voilà.
Non, je vous dis ça, Mustapha, parce que c'est pour être juste avec les gens qui attendent derrière. D'accord?
N'hésitez pas à appeler tout à l'heure.
Il y a pas de problème. Eh ben merci beaucoup.
J'en prie, Mustapha. Bon, merci, Mustapha, à vous aussi.
Bon, madame Mustapha.
Au revoir.
Voilà,
au revoir.
Essayez de poser une question à Maître Serran, ce qui permettra à d'autres de pouvoir lui poser également des questions. On revient dans un instant. 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serran répond à vos questions. 01 53 48 3000. Je rappelle à tous ceux qui ne souhaitent pas passer à l'antenne et qui veulent avoir une conversation en particulier avec Maître Serran, qui peuvent le faire bien après l'émission en l'appelant sur son numéro de téléphone
faut
portable.
Pas hésiter au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Alors on accueille Karima, Maître Serran. Karima, bonjour et bienvenue.
Allô?
Oui, Karima.
Oui, bonjour.
Bonjour, Karima.
Oui, bonjour à vous deux. Moi, c'est mon mari est décédé l'année dernière.
Oui.
Et depuis 11 mois maintenant, l'affaire elle est chez le notaire. Et jusqu'à maintenant, c'est pas encore fini parce que comme mon mari il était marié en Algérie avant moi. Et depuis 11 mois, il ne demande papier par papier. À chaque fois, il manque quelque chose, ouais. Jusqu'à maintenant. Et la dernière, il ne demande le jugement de divorce. Et comme par hasard, le tribunal où est-ce qu'il a, il a été divorcé. Et il y avait un incendie, tous les papiers sont partis. Et il nous a fait un papier l'équivalent de ça. Il veut pas l'accepter.
L'avocat qui s'était occupé à l'époque de cette situation, est-ce que vous avez essayé de le recontacter? Parce que lui doit avoir le jugement.
C'est mon beau-frère qui s'en occupe là-bas. Et comme je peux pas y aller moi,
par la situation. Évidemment.
Voilà. Et c'est mon beau-frère que j'ai fait la procuration pour qu'il s'occupe de tous les papiers que j'ai besoin de là-bas. Il m'a envoyé tous les papiers nécessaires. Il m'a fait même les livrets de fermier de cette femme. Mais avec ça, tous les papiers qui prouvent comme quoi. Maintenant, ce qu'il cherche, il cherche comme quoi est-ce qu'il n'a pas d'enfant avec cette femme.
Ouais.
Et il n'a pas d'enfant du tout. On a donné tous les papiers les preuves qui est comme quoi il n'a pas d'enfant, mais jusqu'à maintenant, il ne veut pas faire l'affaire parce qu'il cherche je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est normal ou pas?
Ah non, alors est-ce que c'est normal? Évidemment que non. Alors déjà, vous êtes dans une situation, madame, pas simple à gérer. Donc et en voilà. Plus, voilà, on vous met des bâtons dans les roues. Donc non, évidemment que c'est pas normal. Maintenant,
et moi, j'ai avec mon mari, j'ai deux enfants,
ouais.
Ils sont grands maintenant, mais j'ai que deux enfants et moi, et, c'est-à-dire l'héritière de ce qu'il ouais. a laissé mon mari. Et elle, non, il veut, je ne sais pas ce qu'il cherche. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore compris ce qu'il cherche parce qu'on a fait les livrets de famille de cette femme. On a fait les divorces, on a fait tous les papiers, les extraits de naissance, tous les papiers nécessaires qui prouvent comme quoi il est divorcé, pas d'enfant.
Bon, alors, d'abord, pour répondre à la première question, est-ce que c'est normal qu'un notaire, entre guillemets, demande autant de documents? Oui, évidemment. Vous imaginez bien oui. que le notaire engage sa responsabilité si demain, il prend une décision et puis on se rend compte qu'il y avait une première épouse ou qu'il y avait des enfants avec cette première épouse. Maintenant, à partir du moment où il vous demande un certain nombre d'éléments et que tous ces éléments sont fournis, enfin voilà, je sais pas ce qu'attend le notaire. Si les pièces, les actes d'état civil établissent qu'il n'y a pas d'enfant, eh ben il n'y a pas d'enfant en classe.
Oui, et la dernière qui nous sort avec le papier, enfin l'équivalent de jugement de divorce que mon beau-frère qui m'a envoyé, on l'a fourni. Et la dernière, il nous demande, il va faire, comment on appelle ça, le généalogie.
Ouais.
L'arbre généalogique ouais, pour savoir s'il y a des héritiers,
oui,
c'est ça?
Oui, mais ça, est-ce que ça vous embête?
Oui, ça m'embête parce que, je sais pas, un généalogie d'ici, qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à en Algérie?
Non, enfin, de toute manière, alors c'est peu probable qu'il se déplace effectivement en Algérie, mais il va se baser, voilà.
C'est ce que
j'allais vous dire, madame. Il va se baser sur les éléments que vous avez déjà donné au notaire. Donc voilà. Honnêtement, alors s'il le fera, on va dire de manière officielle, mais le résultat sera le même. Mais il va pas aller enquêter au pays. Hein.
Voilà, le problème, il me demande 2000 euros pour ça.
Pour faire l'arbre.
Ouais. Alors bon, parfois oui. c'est indispensable et c'est utile. Là, compte tenu de ce que vous êtes en train de me dire, j'ai un peu de mal à comprendre la nécessité de faire
doutes,
ça.
En fait, excusez-moi, j'ai des doutes sur ça. C'est pour ça que je veux demander quand même l'avis.
Ouais.
J'appelle un avocat.
Mais alors, vous avez quoi l'impression que le notaire entre guillemets fait travailler son pote généalogiste? C'est
voilà, quand c'est
ouais.
Ça.
Bon. Alors. Je peux pas l'exclure, voilà. Je suis pas dans le secret de ce dossier, mais je peux comprendre ce que vous êtes en train de me dire, puisque je le redis, à partir du moment où vous avez déjà fourni les éléments au notaire, je vois pas encore une fois ce que peut apporter un généalogiste. Mais dans votre affaire, madame, enfin vous êtes seule à gérer ça. Il y a un confrère qui s'occupe du dossier ou vous êtes toute seule?
Non, j'ai que mes enfants.
Ah voilà, alors quand j'ai un confrère, est-ce que vous avez fait appel à un avocat dans l'histoire ou pas?
Non.
Alors
non,
d'abord,
non,
un, c'est pas obligatoire.
Pas avocat, non.
Mais dans
Pardon?
Ce cas-là, faut non, d'abord, c'est pas obligatoire, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être demander à alors soit vous, soit l'un de vos enfants de faire preuve peut-être of... Je ne vais pas parler de coup de pression, c'est pas la bonne expression, mais d'insister un peu auprès du notaire et de qui puisse démontrer que l'intervention de ce généalogiste pourrait apporter quelque chose de positif ou négatif, mais quel est l'intérêt de faire appel à ça? Donc il faudrait peut-être inviter le notaire à vous le démontrer en disant c'est indispensable parce que, et puis il donnera son explication. Mais de ce que vous êtes en train de me raconter, je vois pas l'intérêt de faire appel ou de débourser 2000 euros de plus pour avoir une information que vous avez déjà.
Ben oui, on a fourni tous les papiers, il a rien fait du tout depuis une année. Il a rien fait. À part les papiers qu'on fournait, il reste 2-3 semaines et après nos contacts, il manque ça. 3 semaines, 1 mois et nos contacts, ouais. Il manque ça. À chaque fois, c'est comme ça. Et depuis, j'envoie à mon beau-frère, vous avez le temps qui prend pour recevoir un compte papier. Et puis voilà, ça traîne. Et moi, les assurances, c'est plein de choses que je dois payer.
Non, mais en la matière, c'est... Non, mais je suis d'accord avec vous. On a quelques affaires comme ça. C'est insupportable. Alors, tous les notaires, hein, évidemment, ne fonctionnent pas comme ça. Mais non, il faudrait peut-être, comme dirait l'autre, tirer ça au clair en tête à tête. Bon, j'imagine que vous avez peut-être déjà demandé un rendez-vous avec ce notaire.
Si, par email avec mes enfants et ils nous envoient juste et nous parlent pas. Et ils nous ouais,
bon, bah là, il faudrait peut-être se rencontrer, mais physiquement.
Ce que je veux demander, est-ce que c'est possible de lui retirer le dossier?
Ah, mais madame, il y a que vous ayez affaire à un notaire, que vous ayez affaire à un avocat. L'intéressé peut à tout moment évidemment retirer le dossier. Il n'y a pas de difficulté
d'accord.
là-dessus. Il
suffit. Il ne demande pas des dommages et intérêts ou quoi que ce soit. Rien.
Non, il ne va pas vous demander des dommages et intérêts. Alors il y a peut-être des démarches qui lui ont coûté.
Rien fait.
Ah non. Alors voilà. Que vous considériez voilà qu'il ait rien fait, c'est une chose. Peut-être que le notaire voilà va dire. J'ai fait ceci ou là j'ai fait cela, vous voyez, c'est-à-dire qu'il pourrait demander quand même à être rémunéré pour les actes qu'il a pu accomplir. Maintenant ça vous pouvez le contester si vous il vous envoie une facture.
On l'a déjà payé la première fois qu'on l'a vu, première fois qu'on a déposé le dossier. En fait, on l'a déjà payé.
Alors le notaire fera ce qui s'appelle, madame, une fiche de diligence, c'est-à-dire qu'il va vous dire vous m'avez payé tant, voilà ce que j'ai fait. Après peut-être que ce que vous avez versé couvre les interventions, peut-être que c'est pas suffisant, mais voilà, il peut évidemment vous envoyer une facture pour dire la provision que vous avez versée ne couvre pas mes démarches. Alors après, vous le contestez ou vous le contestez pas. Mais voilà.
Les démarches, c'est nous qui les ont fait. Mais elle, elle n'a rien fait.
Vous savez, madame, à partir du moment où le notaire dit j'ai fait quelque chose, il devra le démontrer. Ouais, il suffit pas juste de dire j'ai fait quelque chose. Voilà. Non. Il doit le démontrer. Alors si c'est démontré, il faudra évidemment mettre la main à la poche. Si c'est pas démontré, la provision est suffisante.
Voilà, c'est ça.
Mais vous pouvez retirer le dossier, bien sûr.
Il traîne les choses. Et c'est pas le jour que, par exemple, on envoie le papier, il voit que c'est pas ça. Et le lendemain, ils nous disent non, c'est pas
ouais,
ça.
Ouais, alors, madame,
pour nous dire.
D'accord. Alors, moi, je connais pas ce notaire. Mais la question, elle se pose pour les notaires et pour les avocats. Vous imaginez bien, il m'arrive parfois même de dire ça à certains clients, c'est-à-dire que c'est normal que le client, vous êtes son avocat ou son notaire, et puis s'il vous appelle aujourd'hui, vous souhaiteriez avoir une réponse le jour même ou le lendemain. Maintenant, comprenez bien, j'imagine que ce notaire ne gère pas qu'un dossier, qu'une affaire. Donc, il ne faut pas, vraiment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en vouloir à l'homme de loi, quel notaire ou l'avocat ou même un huissier, s'il vous répond pas dans le quart d'heure qui suit ou même dans les 2-3 jours, vraiment, c'est pas parce qu'il cherche à vous fuir, c'est que au niveau timing, on n'a pas la possibilité de répondre à tout le monde quand on vous appelle. Voilà, moi ceux qui vont m'appeler aujourd'hui, je vous mentirais en vous disant que je vais forcément apporter une réponse très précise le jour même. C'est-à-dire que parfois, d'abord, il faut un peu de temps. Et puis, parfois, vous ne pouvez pas répondre le jour même.
Voilà.
Non, après, il y a le côté raisonnable ou pas au niveau délai. Hein, voilà. Maintenant, si à chaque fois que vous lui posez une question, il vous rappelle au bout d'un mois, oui, c'est problématique.
Voilà, c'est ça.
Mais vous pouvez, madame, lui retirer le dossier à tout moment. Là, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
D'accord, eh ben c'est très bien. Parce que franchement, ils nous traînent. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Vous êtes avocat. Est-ce que vraiment normal un dossier comme ça, il reste un an?
Oui, madame. Est-ce que c'est normal de répondre comme ça? Mais oui, dans ce type de dossier, voyez, j'ai un dossier en tête. C'est-à-dire qu'effectivement, alors on a l'impression comme ça de l'extérieur que les notaires ne foutent rien. Mais sincèrement, c'est pas le cas. Alors c'est vrai que le notaire va pas vous appeler tous les quarts d'heure pour dire tiens, j'ai fait ça dans le dossier. Mais ce sont des procédures qui sont longues et c'est alors normal, je vais mettre des gros guillemets. Quand on est directement concerné, c'est toujours trop long. Vous voyez, pour vous évidemment, c'est long, pour vos enfants, c'est long. Mais ce serait pas sérieux de dire dans le timing que vous me donnez, tiens, le notaire traîne des pieds. Non, ce sont des procédures qui sont longues, madame. Et en règle générale, le notaire vous l'explique au moins au premier rendez-vous. Hein. Il vous dit jamais ça va être réglé dans 3 mois. Hein.
Oui, mais on savait pas que c'était autant de papiers. Et la dernière, quand on a envoyé les livrets de famille, mon beau-frère qui me l'a fait là-bas, et j'ai envoyé, on l'a donné. C'était le mariage et le divorce de cette femme. Et il nous a dit Oui, c'est bon. Et après, quelques jours après, il nous envoie comme quoi il faut le jugement de divorce. Et il nous a dit c'est le dernier papier.
Il y a ouais. pas d'autre. Enfin, bon, c'est pas, quand on demande un jugement de divorce dans ce type de dossier, c'est pas un gros mot, vous voyez, ça semble normal, comme
oui,
pièce.
Ben oui, on voilà. l'a fait.
Maintenant, faites et attention.
Comme par hasard, le tribunal était brûlé. Ouais,
enfin bon. Ah, c'est pas le notaire qui l'a brûlé, le tribunal. C'est-à-dire non, que, non, voilà. C'est donc là, vous voyez, c'est, non, non. là pour, bah, pour il y est pour rien dans fait, l'histoire.
On a fait le, on a fait
j'entends
le
bien.
Papier.
J'entends bien.
Le papier, l'équivalent.
J'entends bien.
Il m'a fait le papier. Qui est l'équivalent de
voilà,
de
l'équivalent du jugement.
Voilà.
Mais faites et attention quand même, madame, parce que...
Sorte,
madame, voilà. faites attention oui. quand même, parce que vous savez, vous pouvez changer de notaire, oui. mais rien ne vous dit que le notaire que vous allez choisir va aller plus vite, et selon moi, parce que ça fait déjà un an, vous avez l'impression que ce notaire a rien fait. Bon, je connais pas le dossier, mais c'est peu probable qu'il ait rien fait. Faites attention, parce que si vous changez, vous risquez de repartir à zéro... et d'avoir le même timing, c'est-à-dire que le prochain notaire peut, à minima, prendre au moins un an de réflexion pour ensuite donner des solutions. Hein. Donc, faites attention quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de changer de notaire maintenant.
Ah bon ?
Ouais.
Ah, c'est pour ça que...
Bah, vous risquez de perdre encore plus de temps.
Ah. Et c'est pas possible que ça va se régler dans le.
Les ah non, suivants, non, quoi. Madame. Est-ce que vous pouvez changer de notaire ? Oui. Est-ce que oui. c'est conseillé? C'est pas certain. Excusez-moi, parce qu'il y a l'imam qui vient d'éternuer. Je crois qu'il y a des germes partout. On va tous être infectés. Voilà. Ah, on va être confinés à la radio, je crois.
Ah,
ok. Hein. Donc, on ouvre les fenêtres, on aura tous froid. Voilà. Merci. Abdel Ali.
Allez, bonne journée. Merci beaucoup.
À vous aussi, madame. Bon courage à vous. Au revoir,
merci,
madame.
Au revoir.
Même l'auditrice, elle a raccroché vite fait. Elle, non, direct, non, elle a dit bonne
non,
journée.
Elle a eu peur. Non, c'est vrai que parfois, on a l'impression que les procédures prennent ouais. du temps et que le fait de changer de notaire, ça accélère les choses,
non,
mais peut-être pas.
Non, il faut faire attention, ça risque de ralentir davantage son dossier. Cette femme est pressée, ce qui est normal.
Non, je rigole pas, Maître Serra, ne rigolez pas. Oui, non, vous avez mis du gel, Mme Abdelali. Non. Non, oh mon Dieu, mon Dieu.
Mais c'est bon, c'est terminé. Non, mais là, voilà. c'est bon. On a tout... voilà.
C'est l'imam, ça. Bon. Arrosez l'imam, là, faites ce que vous voulez. Dans un instant, l'imam Abdelali Mamoun, donc l'éternueur, sera là avec nous pour l'islam au présent. A tout de suite.
Joli surnom, l'imam
l'éternueur.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.